La chronique de Philippe Jorgensen.
La chronique d'aujourd'hui s'intitule « Une nouvelle démographie mondiale », mais avec un point d'interrogation. Les évolutions démographiques ont une grande force d'inertie. Pour le dire plus simplement, l'avenir de notre population est déjà en grande partie écrit. Deux exemples vont suffire pour l'illustrer. D'abord, tous les retraités de l'an 2070, ça paraît loin, sont déjà nés. Avec nos tables de mortalité, très fiables, on sait donc à peu près exactement à l'avance quel sera leur nombre et la charge financière qui en résulterait, à législation inchangée évidemment. Deuxième exemple, le déclin de la population européenne de souche, comme on dit, pendant les prochaines décennies, est un phénomène inéluctable. Même si toutes les jeunes européennes se mettaient brusquement à faire deux fois plus d'enfants que leur mère, la tendance ne serait pas inversée avant plusieurs décennies, la seule inconnue étant de savoir si l'immigration viendra ou non combler ces pertes. Et pourtant, plusieurs éléments importants du tableau ont changé depuis la précédente chronique que je vous ai présentée sur ce sujet en mars 2006. Voyons d'abord les éléments de permanence. Les nouvelles statistiques publiées dernièrement par l'Institut national d'études démographiques à partir des chiffres de la division de la population des Nations Unies confirment, c'est évidemment un point essentiel, la prévision selon laquelle la population mondiale se stabilisera arrêtera d'augmenter dans la seconde moitié de ce siècle. Elle se stabilisera à hauteur de 9,3 milliards d'habitants. Je prends ici la valeur moyenne de la fourchette des estimations. Cette prévision, stable depuis une dizaine d'années, paraît fiable. Elle peut surprendre dans la mesure où la population de notre planète augmente encore actuellement, en valeur absolue, à un rythme sans précédent, 75 millions d'âmes par an. Nos auditeurs se souviennent certainement qu'il y a juste 10 ans, on nous a annoncé que nous étions 6 milliards sur Terre, niveau déjà presque quadruple de celui de 1900, qui était de 1,6 milliard seulement à l'époque. Nous sommes aujourd'hui près de 7 milliards, 6,8 milliards exactement, sur le globe. Mais cette croissance forte se fait entièrement sur la vitesse acquise. Comme des générations nombreuses de femmes arrivent à l'âge de procréer, elles ont au total beaucoup d'enfants, même si chacune d'elles a en réalité bien moins que la génération précédente. C'est pourquoi il faut regarder non le taux de natalité, c'est-à-dire le nombre de naissances rapportées à la population, mais le taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants par femme. Les taux de natalité restent élevés, 20 pour 1000 en moyenne mondiale, ce qui, compte tenu du taux de mortalité fort heureusement en baisse grâce au progrès de la médecine et du développement, donne encore, pour peu de temps, un taux d'augmentation de la population supérieur à 1% par an, 1,1% actuellement. En revanche, les taux de fécondité chutent, eux, fortement. La moyenne mondiale, qui était encore de 4 enfants par femme il y a 30 ans, est tombée à 2,5. C'est une chute vraiment très rapide. Généralement inférieure dans les pays industrialisés au seuil de renouvellement naturel permettant de maintenir constante une population, seuil qui est de 2,1 enfants par femme, elle est aujourd'hui proche de ce seuil, à 2,3, tant dans la vaste Asie qu'en Amérique du Sud, continent où chacun voyait naguère une bombe démographique en train d'exploser. La baisse des taux de fécondité et de natalité se poursuit presque partout, au point qu'un pays comme la Chine, le plus peuplé du monde aujourd'hui, avec ses 1300 millions d'habitants, commence à se préoccuper sérieusement de devoir renverser la vapeur de ses politiques antinatalistes. Une deuxième confirmation est celle du vieillissement inéluctable de la population mondiale. L'Europe connaît déjà ce vieillissement, dû tant à l'allongement continu de l'espérance de vie, 76 ans contre seulement 50 ans il y a un demi-siècle, qu'à la chute profonde et ancienne du taux de natalité, qui, bien sûr, diminue la proportion de jeunes. Mais ce phénomène du vieillissement, du papy-boom, comme on dit parfois de façon plaisante, est en train de s'étendre au monde entier, à l'exception notable de l'Afrique, sur laquelle je vais revenir. L'effectif mondial des plus de 65 ans est en 2009 de 577 millions de personnes, dont déjà plus de la moitié en Asie. Par rapport au total de la population, la proportion des plus de 65 ans n'est pourtant encore que de 7% dans ce continent, contre 13% en Amérique du Nord et 16% en Europe. Le chiffre pour la France est même de 17%. Les pyramides des âges, dans lesquelles se lit notre avenir, montre cependant que le vieillissement va s'étendre très rapidement. Le nombre des plus de 65 ans dans le monde devrait tripler pour atteindre 1,5 milliard au milieu de ce siècle, soit un sixième de la population totale mondiale. Chacun peut comprendre les répercussions considérables qu'aura ce phénomène sur les régimes de retraite. Chez nous, la prise de conscience est déjà assez avancée, même si les réformes courageuses qui s'imposent tardent à venir. Dans les pays émergents, on en est à découvrir le problème. L'inquiétude sur la manière dont ils seront pris en charge dans leurs vieux jours est d'ailleurs l'une des causes essentielles de l'importance excessive de l'épargne des Chinois, problème lui-même lié aux déséquilibres financiers mondiaux actuels. Enfin, une troisième confirmation est celle de l'importance accrue des pays aujourd'hui en développement dans la population mondiale. Globalement, les pays industrialisés verront leur population stagner, tandis que les 3 milliards d'êtres humains supplémentaires qui s'ajouteront à la population du globe viendront tous des pays actuellement en développement. En 2050, un habitant de la Terre sur 8 seulement viendra des pays actuellement dits avancés. C'est dire à quel point il est important que les pays émergents réussissent à se développer. Et peut-on ajouter à la veille de la conférence climatique de Copenhague, le fasse d'une manière qui préserve les équilibres écologiques de la planète. Après tant de confirmations, quels sont donc les éléments nouveaux de la situation ? Les changements significatifs concernent les deux continents qui sont aux extrêmes en matière de démographie, la vieille Europe et la jeune Afrique. La première surprise, donc, est une remontée de la fécondité dans les pays industrialisés. Certes, leur déclin démographique est profond, notamment dans les pays d'Europe de l'Est et au Japon. Mais, pour la première fois depuis bien des décennies, la tendance semble s'inverser. C'est ainsi qu'en Europe de l'Est, où les taux de fécondité étaient parmi les plus bas du monde, à 1,3 enfants par femme, ils sont remontés à 1,5. Encore loin d'assurer le renouvellement des générations, ce regain semble stopper le processus de dégradation qui amène un grand pays comme la Russie, par exemple, à enregistrer une perte d'1 million d'habitants par an, ce qui ramènera sa population à moins de 120 millions d'habitants au milieu de ce siècle. Au sein de l'Union européenne, le nombre moyen anticipé d'enfants par femme est remonté de 1,5 à 1,6. L'amélioration s'observe notamment en Grande-Bretagne, dans les pays nordiques et dans certains pays d'Europe du Sud comme l'Espagne ou la Grèce, mais pas en Italie ni en Allemagne. Nos voisins d'Outre-Rhin s'inquiètent aujourd'hui de la chute libre annoncée de leur population, la population de ce que leurs médias baptisent déjà la République des retraités. L'Allemagne, où le taux de fécondité stagne à 1,3 enfants par femme, devrait en effet perdre 20% de sa population en un demi-siècle. Un habitant sur trois aura alors plus de 65 ans et 60% de la population allemande ne sera plus en âge de travailler, tandis que les plus de 80 ans seront aussi nombreux que les moins de 20 ans. 14% du total pour chaque catégorie. Ce triste cas mis à part, même au Japon, qui avait l'indice de fécondité le plus bas du monde avec l'Europe de l'Est et du Sud, l'indice a légèrement remonté, passant de 1,3 à 1,4. Les États-Unis sont beaucoup mieux lotis puisque les Américaines dépassent maintenant le seuil critique de renouvellement de 2,1 enfants par femme. Compte tenu de l'immigration, la population du pays devrait de ce fait atteindre 440 millions au milieu de ce siècle, contre un peu plus de 300 actuellement. Quant à la France, elle jouit sur ce plan d'une situation enviable, puisque son taux de fécondité, voisin de 2 enfants par femme, est maintenant le plus élevé d'Europe et assure presque le renouvellement des générations. Il naît maintenant régulièrement plus de 800 000 enfants par an en France, d'hommes inclus, soit autant en valeur absolue qu'à l'époque du baby-boom. De ce fait, notre pays, qui était le plus vieux du monde entre les deux guerres mondiales, vieillira moins que ses voisins. Il est aujourd'hui encore parmi les plus vieux, mais il deviendra nettement moins vieux en moyenne que ses voisins européens. La part des plus de 65 ans dépasserait tout de même un quart du total en 2050. Les préoccupations sont inverses dans le monde en développement, où une population trop rapidement croissante fait peser des charges difficilement supportables sur des pays très pauvres et les empêche de sortir de la misère, mais aussi de contribuer à l'équilibre écologique de la planète. Un tout récent rapport du Fonds des Nations Unies pour la population conclut en effet qu'un dollar investi dans le planning familial et l'éducation des filles réduit l'émission de gaz à effet de serre au moins autant qu'un dollar dépensé en éoliennes. Dans leur ensemble, les pays du Sud ont considérablement freiné leur croissance démographique. J'ai parlé tout à l'heure de la Chine. Ce pays est tombé bien au-dessous du seuil de renouvellement des générations, avec un taux de fécondité de 1,6 enfants par femme seulement. Il est vrai qu'il s'agit d'une statistique officielle, bon nombre de naissances restant cachées aux autorités. Ce qu'on sait moins, c'est que le freinage démographique est déjà très avancé aussi dans les pays du Maghreb, puisque le taux de fécondité est tombé à 2,3 enfants par femme en Algérie et au Maroc, et 1,9 seulement en Tunisie. Passons à l'autre extrême, la mauvaise surprise, la deuxième surprise que l'on constate dans les statistiques récentes, est que l'exception de l'Afrique subsaharienne, qui était déjà marquée, s'accentue au lieu de s'effacer. Le continent noir est en effet le seul actuellement où la fécondité se maintient à un niveau très élevé, 4,8 enfants par femme contre 2,6 en moyenne mondiale. L'Afrique, qui ne comptait que 225 millions d'habitants en 1950, a déjà vu sa population quadrupler depuis et vient de dépasser le cap d'un milliard. Ce chiffre doublera encore d'ici le milieu du siècle. En 1950, moins d'un humain sur 10 était africain. 100 ans plus tard, ce sera plus d'un sur 5. 43% des habitants d'Afrique subsaharienne ont moins de 15 ans. Et la majorité de la population a moins de 16 ans dans des pays comme l'Ouganda ou le Niger. La population de ce dernier État, zone semi-aride déjà menacée par la famine, passerait de 15 millions aujourd'hui à 58 millions en 2050. Chiffre qui paraît à peine croyable. La dynamique démographique de l'Afrique noire est si explosive qu'il naît chaque année dans le seul Nigeria plus de bébés que dans l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne, 6 millions contre 5. Cet écart croissant entre l'Afrique subsaharienne et le reste du monde en développement s'explique. Ce continent est malheureusement aussi celui où l'insécurité et la corruption freinent le plus les progrès de l'économie et de l'éducation. Or, c'est dans la croissance et dans l'éducation, surtout celle des femmes, beaucoup plus que dans l'usage de moyens extrêmes comme les stérilisations pratiquées à plus ou moins grande échelle en Chine et en Inde, par exemple, que réside la solution. Il est bien établi que la natalité décroît spontanément quand un pays s'enrichit. Et les spécialistes soulignent que l'autonomisation des femmes, une meilleure éducation des jeunes filles et le droit à la santé maternelle et au planning familial offrent l'autre clé du rééquilibrage. Au total, on peut constater que la bombe démographique tant annoncée n'explosera pas, sauf en Afrique. Il est d'autant plus urgent de nous pencher, bien plus activement, sur le sort de ce continent trop souvent délaissé.